Voici le journal de Serge Martin. Bonjour Serge.
Bonjour Eric, bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce samedi, le coup de poker raté de Jean-Marc Janaillac, désavoué par les salariés qui ne l'ont pas suivi. Le PDG d'Air France KLM a annoncé hier soir sa démission. À suivre, la fête à Macron. Des milliers de manifestants sont attendus cet après-midi dans les rues de Paris pour célébrer à leur manière le premier anniversaire de l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Un rassemblement initié par le député de la France Insoumise, François Ruffin. Emmanuel Macron qui justement vient de rendre hommage aux victimes de la tragédie d'Ouvéa. Nous appellerons sur place notre envoyé spécial Bertrand Galichet. Dans ce journal également, le soutien indéfectible de Donald Trump au lobby des armes. Le président américain qui une fois de plus s'est appuyé sur la tragédie du Bataclan. Enfin, côté sport, du football avec la remontée en Ligue 1 de Nîmes et le coup de chapeau à Aurélien Rougerie qui met fin à sa carrière de rugbyman. Rendez-vous dans le journal des sports présenté par Laetitia Bernard. Zone de turbulence donc à Air France KLM où le PDG tire sa révérence, désavoué par les salariés de la compagnie qui par 55,4% des voix ont rejeté ses propositions d'augmentation des salaires. Jean-Marc Janaillac a donc décidé d'en tirer les conséquences. Comme il l'avait laissé entendre en mettant son poste dans la balance lors de la mise en place de sa consultation, le PDG a annoncé hier soir sa démission. Le groupe Air France KLM se retrouve donc en pilotage automatique, Philippe Lefebvre.
Dans quelques jours, le groupe Air France KLM n'aura plus de PDG. Jean-Marc Janaillac, désavoué par 55,4% des salariés d'Air France, remettra sa démission au conseil d'administration du groupe. Il l'a confirmé hier d'une voix blanche lors d'une déclaration d'à peine 5 minutes.
J'assume les conséquences de ce vote et je remettrai dans les prochains jours ma démission au conseil d'administration d'Air France et à celui d'Air France KLM. C'est un immense gâchis qui ne peut que réjouir nos concurrents, fragiliser nos alliances et déboussoler nos équipes. J'ai ce soir un immense regret que nous n'ayons pas été capables de recréer les conditions de la confiance.
Dans cette déclaration, le PDG d'Air France KLM évoquait également l'attitude suicidaire à ses yeux des organisations syndicales, ce qui a agacé Jérôme Borin du syndicat Sud Air France.
Moi, je pense que l'attitude suicidaire, c'est celle qui était menée par notre DRH, c'est-à-dire que de persister dans la non-négociation, ça a fait perdre plus de 300 millions d'euros à notre entreprise, alors que si on s'était mis réellement autour d'une table pour négocier sur une revalorisation de 5 ou 6%, on n'en serait pas là.
Mais malgré le départ du PDG au syndicat national des pilotes de ligne, on affirme vouloir continuer les négociations avec les autres dirigeants du groupe. Et pour le moment en tout cas, les prochains jours de grève, lundi et mardi prochain, sont maintenus. L'intersyndicale devrait se réunir en début de semaine pour décider de la suite à donner au mouvement.
Et pendant les tractations, le mouvement de grève se poursuit. Lui, les préavis déposés justement pour lundi et mardi sont en effet maintenus.
Et ils vont célébrer à leur manière le premier anniversaire de l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron.
Ils se sont en fait les opposants au chef de l'État qui, à l'appel du député de la France Insoumise, François Ruffin, vont se retrouver cet après-midi pour défiler dans les rues de Paris et participer ainsi à ce que les organisateurs appellent la fête à Macron. De l'Opéra à la Bastille, des milliers de manifestants, peut-être des dizaines de milliers venus de toute la France, vont ainsi venir crier leur ras-le-bol sur le thème « Un an, ça suffit ». Parmi ces manifestants attendus à 14h devant le Palais Garnier, deux habitants d'Indre-et-Loire, Christophe et Louisa, rencontrés par Léo Técher. Je vous propose de les écouter.
Ce qui motive, c'est de montrer qu'ils se fichent vraiment des gens, ils n'écoutent pas, il suit son programme personnel. Il y a des manifestations un petit peu tout le temps, hein, depuis un an, mais ça ne le touche pas. Ça va, tout va bien. On va continuer jusqu'à temps qu'il entende.
Moi, je suis retraitée, on m'a piqué de l'argent sur ma retraite. J'ai travaillé 42 ans pour avoir une retraite. Il y avait un contrat qui était passé. Ils ne l'ont pas tenu.
Un an de Macron, c'est long. Hein. Un an de Macron, c'est...
Les ordonnances.
Les ordonnances. Bah, les ordonnances à tour de bras, il y en a quand même beaucoup. Macron aussi, récemment, c'est le bombardement en Syrie, alors qu'il aucun mandat de l'ONU. À rajouter à la liste aussi la poursuite du démantèlement des services de santé, par exemple. Dans les hôpitaux, les EHPAD, c'est une catastrophe. Les gens sont à bout. Il y a une belle liste.
Le démantèlement de la SNCF, Macron, il est là pour découper la France en morceaux et la donner à ses amis les capitalistes.
Une manifestation qui, compte tenu des derniers événements du 1er mai, va être placée sous haute sécurité. Quelques 2000 policiers et gendarmes vont être mobilisés cet après-midi pour assurer la sécurité de cette manifestation.
Et pendant ce temps, à 17 000 km de Paris, Emmanuel Macron s'est rendu cette nuit, hors de Paris, sur l'île d'Ouvéa, en Nouvelle-Calédonie.
30 ans, jour pour jour, après le dénouement sanglant de la prise d'otage dans la grotte de Gossana, assaut qui avait fait 21 morts, 19 canaques et 2 militaires, alors que 4 gendarmes avaient été assassinés le 22 avril. Dans l'attaque de leur gendarmerie de Fayaoué. Le chef de l'État s'est donc rendu sur l'île pour honorer les morts. Une visite symbolique, appréciée par les uns, considérée comme une provocation par d'autres. Bertrand Galichet, vous êtes sur place et vous avez suivi pour nous ces commémorations cette nuit.
Oui, et dès son arrivée ce matin à l'aéroport d'Ouvéa, Emmanuel Macron annonce qu'il ne déposera pas lui-même de fleurs sur la tombe des 19 Kanaks tués à la fin de la prise d'otage il y a 30 ans.
C'est un geste qui peut vous paraître symbolique, mais qui, je crois que tout le monde en convient. Et nature a montré qu'on entend cette voix, qui permettra aussi d'apaiser tout le monde, de tourner une page en continuant dans ses mémoires partagées et de marquer la présence de la République.
Ce geste d'apaisement n'empêche pas le ressentiment de certains Kanaks à Ouvéa. Les gendarmes ont installé ce matin un barrage filtrant pour empêcher quelques dizaines d'habitants de venir manifester à la chefferie de Wadrila, où une cérémonie coutumière a eu lieu. Le fils d'Alphonse Dianou, l'un des Kanaks tués à Ouvéa, voit dans la visite présidentielle le moment de restaurer la mémoire de son père.
C'est un des militants, il faut rectifier aussi ces choses-là, parce que les générations futures, des fois, ils ont tendance à se focaliser dessus, et puis c'est pour ça qu'ils sont bloqués après. Donc ça veut dire, mon papa, c'est pas un preneur d'otage, c'est un enfant d'une chefferie, il sort d'un clan, c'est toutes les valeurs kanak.
Un peu plus tôt, Emmanuel Macron est venu se recueillir à la gendarmerie de Fayaoué, attaquée par des indépendantistes en avril 1988. Cette femme d'une cinquantaine d'années vit à côté, elle n'a rien oublié.
C'est un moment de l'histoire d'Ouvéa, mais c'est un moment qui a touché les familles des gendarmes et les familles de l'île.
Tout le monde s'en souvient aujourd'hui ?
Oui, personnellement, je comprends tout ce qui se passe dans l'île, parce que oui, c'est comme si c'était hier.
Dans ce décor paradisiaque, au bord de l'eau turquoise du lagon et des plages de sable blanc, l'ambiance était plutôt chaleureuse ce matin et les drapeaux kanaks très présents.
Bertrand Galichet, assisté de Laurent Groux pour les moyens techniques en direct d'Ouvéa. Emmanuel Macron, de retour à Nouméa, prononcera un discours tout à l'heure, d'ici environ une heure, avant de reprendre la direction de la métropole. Je vous rappelle que le référendum d'autodétermination, au cours duquel les Calédoniens vont avoir à se prononcer pour ou contre leur indépendance, aura lieu le 4 novembre prochain.
Donald Trump devant la NRA. Pour la quatrième année consécutive, le président américain participait hier soir à la convention annuelle du lobby des armes.
Et l'occasion pour Donald Trump de redire aux adhérents de la National Rifle Association que lui, au pouvoir, le second amendement et le droit de porter des armes seront défendus et maintenus. Une prise de position qui intervient 2 mois et demi après la tuerie du lycée de Parkland qui avait fait 17 morts. Et pour illustrer sa position, le président américain s'est même inspiré de la tragédie du Bataclan à Paris. Washington, Grégory Phillips.
Devant une salle conquise, Donald Trump assure que les adhérents de la NRA, ils sont environ 5 millions aux États-Unis, ont un gouvernement qui se bat pour protéger le second amendement, celui qui garantit à tout citoyen américain le droit de porter une arme. Tonnerre d'applaudissements. Puis le président prend à son compte une idée chère aux membres de la National Rifle Association. Il faut un type bien armé pour arrêter un mauvais gars, lui aussi armé. Et comme il l'avait fait à plusieurs reprises lors de la campagne présidentielle, Trump cite l'exemple des attentats du 13 novembre en France. Il rejoue le drame du Bataclan en imitant un revolver avec sa main droite. Les terroristes ont pris leur temps et ils ont abattu leurs victimes l'une après l'autre. Viens par ici. Mais si une seule personne dans cette salle avait été armée, ça aurait été une toute autre histoire. Puis le président évoque rapidement la fusillade de Parkland et ses 17 morts. La solution, dit-il, c'est plus de détecteurs de métaux à l'entrée des écoles, certains professeurs armés et entraînés. Nous n'échouerons pas, promet Trump aux militants pro-armes réunis à Dallas, et nous protégerons toujours votre second amendement. Washington, Grégory Phillips, France.
Retour en France où l'agresseur de Marin a été condamné hier soir à 7 ans et demi de prison. Marin, c'est ce jeune homme qui s'était fait tabasser en 2016 après avoir pris la défense d'un couple en train de s'embrasser. Marin qui est depuis lourdement handicapé. La cour a retenu l'excuse de minorité. L'agresseur avait en effet 17 ans au moment des faits. Du cinéma pour refermer ce journal. Parmi les sorties de cette semaine, le nouveau film de Xavier Nolia, Comme des rois, avec à l'affiche Kad Merad, Sylvie Testu et Kessé Motet-Klein. Un film qui est l'occasion de mettre en valeur ce jeune comédien, Jacqueline Petrose.
Marie qui m'a parlé d'un truc, c'est un truc facile qu'on pourrait faire.
Non, mais non.
D'un naturel bluffant, Kessé Motet-Klein campe un fils pris dans une relation filiale, comme dans un collègue qui se resserre. Joseph lui a appris le métier, comme son père l'avait fait pour lui, quoi de plus logique. Ils écument les lotissements en faisant du porte-à-porte, vendant de soi-disant grand cru.
Non mais de toute façon je peux pas. Je vous ai dit, hein, 70 euros c'est trop cher.
Si on peut savoir ce que vous faites là ?
Le coup du vin à prix cassé, c'est ça ?
Vous avez une carte professionnelle ?
Ah oui très bien, je connais. Non, c'est des gens sérieux ça.
C'est quoi comme vin ?
Ah oui, Saint-Émilion 2007, c'est bien ça non ?
Moi je vous les prends moi.
Attendez, je vais vous les prendre.
Mais Mika n'a pas la vocation, il veut être comédien et il est doué. Il vient d'être accepté dans un cours à Paris, mais il faut de l'argent pour vivre. Alors, en dernier recours, il accepte encore quelques coups avec son père. Sauf que cette fois, ils prendront trop de risques. Le scénario manque peut-être un peu d'ambition, mais il y a une tendresse émergente dans ce film. Ce père maladroit dans l'expression de son amour et perdu dans sa vie est touchant. Kadmirad excelle à la fois dans l'emphase et dans cette retenue face à un Kessie Motéklin taiseux, hésitant entre être fidèle à sa passion ou à son père. Comme des rois est un film sur l'amour filial, ses limites et sa pureté.
Oh, papa !
Comme des rois au cinéma depuis mercredi et comme un coq en pâte, c'est Éric Delvaux que vous retrouvez maintenant.
C'était le journal de Serge Martin.